Dieu vous bénisse. On va prier. Père très saint, il nous a encore donné l'occasion de nous assembler, partager ces quelques moments. Merci pour la vie renouvelée à chacun de nous et pour la force nous donner, Père, d'arriver jusqu'en ce lieu. Et maintenant, Père, que nous allons ouvrir ta parole, sois-nous favorable, Père, pour nous instruire, nous enseigner, nous éclairer, Père. Pour une marche plus, ô Dieu, affermie en toi, Père éternel, ô Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs, Père, et soutiens chacun de nous dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous allons continuer. La fois passée, on a commencé à parler un peu d'Israël au temps d'Élie, ou au temps d'Akab. Et nous avons vu que Israël avait abandonné l'Éternel. Il a commencé à adorer Baal et Astarté. Et j'avais expliqué quel était en fait ce dieu ou cette déesse qui était-il. Et on avait vu que c'était de dieu de la guerre, de la violence, de la méchanceté, et que c'était le dieu de la licence sexuelle. Nous reviendrons plus longuement là-dessus, si Dieu le permet, la prochaine fois, pour voir un peu qu'est-ce que cela renferme en comparaison au temps dans lequel nous vivons. Donc, je disais qu'au temps d'Israël, c'était un temps, une période d'apostasie. Car effectivement, ils avaient abandonné l'Éternel. Et nous avons vu que, particulièrement au temps d'Akab, le peuple est retourné à adorer les Astartés. Et on avait vu que l'origine de ces cultes venait du temps des juges. Parce que Dieu leur avait dit, vous ne ferez pas les choses qui se font dans les pays que vous quittez ou vous abandonnez, donc c'était l'Égypte, ni dans les pays dans lesquels je vous conduis, qui étaient Canaan. Et ceci est très important de comprendre toujours l'origine des choses pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons vu qu'Israël, ou Akab avait fait, il fit mal aux yeux de l'Éternel, entraînant son peuple à adorer ses divinités païennes. Et ça, vous pouvez lire ça dans 1 Roi 16, 30, 34. Mais qui est Élie? La Bible ne dit pas grand-chose d'Élie. Il parle du Tisbite, mais il ne parle ni de son père, ni de sa mère, rien du tout. On voit juste qu'il apparaît au temps d'Akab. Mais nous savons que lorsque nous regardons au travers des Écritures, qu'Élie est l'un des grands prophètes de Dieu dont la vie est remplie de miracles et de prodiges. Son nom apparaît plusieurs fois dans la Bible et il est lié à des temps d'avertissement et de jugement. Et tout ça pour annoncer aussi des temps nouveaux et surtout ramener le cœur du peuple à Dieu. Donc, Élie est présent au temps des rois en Israël. Ça, c'est ce que nous avons vu avec Akab. Au temps des jonctions entre l'ancienne et la nouvelle alliance, où il est dit que il avait cette mission de ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Et peut-être à une autre occasion, on verra que la notion du Père est très, très importante dans la Bible. Et c'est peut-être un des problèmes aujourd'hui parce que le Père n'occupe plus la position qu'il devait occuper. Et quand on regarde le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il parlait beaucoup du Père. Il y a quelque chose de très profond au niveau des Pères, mais nous en parlerons à une autre occasion. Et nous voyons aussi que Élie, au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste est arrivé, c'était l'Élie qui devait venir pour amener le cœur des pères vers les enfants, mais nous voyons aussi qu'au temps de la fin, Élie revient de nouveau, tant pour les nations que pour Israël. Et donc, comme nous avons vu la dernière fois, la première fois qu'on voit Élie apparaître, c'est pour annoncer un jugement sur Israël à cause de la désobéissance et de la rébellion. Dans 1 Roi 17, 1, il est dit, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous voyons que dans la troisième année de sécheresse, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie pour annoncer la fin de la sécheresse et le retour de la pluie. Ça, c'est dans 1 Roi 18, 1. Et quand on lit dans ce passage-là, il est parlé de trois années de sécheresse. Mais lorsqu'on va dans Jacques 5, 17, Jacques nous parle de 3 ans et demi de sécheresse. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de durée de la sécheresse, mais certains commentateurs avancent l'hypothèse qu'il n'avait pas plus 6 mois qui précédaient l'annonciation du jugement par Élie. Donc avant que Élie n'ait donné le message de Dieu, il y avait 6 mois qui s'étaient d'abord écoulés où il n'avait pas plu. C'est l'explication qu'il donne, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Mais en tout cas, il y a une différence dans la durée de la sécheresse. Pour montrer que l'Éternel est Dieu, à un peuple qu'il avait complètement oublié pour servir les Baals et les Astartés, il va y avoir la confrontation à Carmel. Au mont Carmel, on avait vu ça la fois passée, entre les prophètes Élie et les prophètes de Baal. Et nous avons vu que Élie devait restaurer l'autel. C'était quelque chose de très, très important parce que Élie a cette mission-là de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Et pour ramener le cœur du peuple vers Dieu, il faut que les choses soient faites comme Dieu l'a établi dès le commencement. Et c'est comme ça qu'il a fallu restaurer l'autel. Et il y a eu des sacrifices qu'il a fait. Et après ça, il a demandé que le feu de Dieu tombe. On avait vu que la prière d'Élie n'était pas une longue prière parce qu'il avait fait les choses comme Dieu l'avait dit. C'était une courte prière et Dieu a exaucé sa prière. Après cette confrontation, les prophètes de Baal vont être tués. L'Éternel va ensuite faire pleuvoir, mettant ainsi fin à la période de sécheresse. Et si on met fin à la période de sécheresse, ça veut dire que ce sont des temps de rafraîchissement. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des temps de rafraîchissement. Donc, le titre exact, des temps de rafraîchissement ou temps d'Élie. On va se lever pour lire 1 Roi 18, 41, 45. 1 Roi 18, à partir du verset 41 jusqu'à 45. Et Élie dit à Acab, « Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Cette fois, retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Acab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. On va prier. Merci Père pour cette occasion qui nous a encore donné de lire ta parole et merci pour les bénédictions qui accompagnent la lecture de ta parole. Bénis chacun de nous et assiste-nous maintenant. Éclaire-nous pour la suite au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ici nous voyons, Élie va monter au sommet du Carmel et Élie va demander à son serviteur de regarder du côté de la mer à cette reprise. Je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas demandé de regarder au ciel? Il a demandé de regarder du côté de la mer. On peut comprendre, pour ceux qui ont déjà été à la mer, que lorsqu'ils regardent la mer, l'horizon est très très lointain. Donc l'horizon étant très très lointain, les prophètes ou les serviteurs pouvaient voir clairement le ciel, mais c'est plutôt beaucoup plus à l'intérieur de la mer et du ciel, donc à l'horizon. Toutes les fois où le serviteur est parti regarder, il ne voyait rien, sauf à la septième fois où il vit un petit nuage qui s'élève de la mer. Très étrange, les nuages s'élèvent de la mer. Normalement, la pluie vient du ciel, mais ici, les nuages s'élèvent de la mer. Et comme je dis, il est possible, je ne confirme pas, mais il est possible que regardant au loin, l'intersection du ciel et de la mer, donc l'horizon, où le serviteur pouvait voir de très très loin, justement, ces petits nuages. Mais ces nuages étaient comme une pomme de la main d'un homme. La pomme n'est pas très grande. Hein? Je ne sais pas à quelle distance était le serviteur, mais en tout cas, il a vu un petit nuage semblable à une pomme de la main d'un homme. À ce moment-là, le prophète comprit qu'il y avait imminence d'une forte pluie. Il avertit le roi Akab de rentrer à Israël car il allait pleuvoir abondamment. Mais une chose assez étrange, alors que Akab monta sur son char, Élie, lui, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Vous comprenez, courir et être dans un char, la vitesse n'est pas la même. Mais ici, c'est le prophète qui court devant le char. Il y a déjà du surnaturel là-dedans. Il y a du surnaturel. Et donc, il arriva avant lui à l'entrée de Jisréel. Je ne sais pas quelle est la distance. Je n'ai pas regardé. Peut-être qu'il y a des cartes qui peuvent le montrer. Mais en tout cas, il est arrivé avant le roi Akab. Surtout qu'il lui a dit de monter et de partir. Quoi. C'est assez... Élie est un homme assez étrange. Il y a plein de choses qu'il a fait qui montrent comment Dieu a agi au travers de lui. Et certainement, Akab devait être surpris de voir les prophètes arriver avant lui à l'entrée de Jisréel. Et il devait se dire, mais cet homme, il est vraiment particulier. Et lorsqu'on regarde les nuages, les petits nuages qu'il a vus, on a vu qu'il avait la forme d'une pomme de main d'homme. Et vous savez que la main, lorsqu'on regarde la pomme de main porte les cinq doigts. Et cinq, c'est le chiffre de la grâce ou le chiffre de la vie. Et si vous remarquez, le serviteur est parti regarder sept fois. Cette fois, c'est le chiffre de l'achèvement ou de l'accomplissement. Et si vous regardez aussi bien, Akab était le septième roi d'Israël après le schisme. Il y a des messages parfois que Dieu code dans les chiffres. C'était donc un temps de restauration, un temps où la vie devait revenir. Bien, donc après que cette étape eut lieu, Akab va informer sa femme Jézabel, hein, on connaît qui est Jézabel, qu'on a tué ces prophètes, les prophètes de Baal. Alors, Jézabel va s'en prendre au prophète Élie. Et Élie va s'enfuir. Il est presque tombé dans une dépression parce qu'il croyait qu'il était resté seul. Une chose aussi assez étrange, c'est que Akab a affronté les prophètes de Baal. Ils étaient nombreux. Il n'a pas eu peur, mais devant Jézabel, Élie s'enfuit. C'est plutôt Élie qui a affronté les prophètes de Baal. Et devant Jézabel, il s'enfuit. Ça montre que Jézabel était une femme redoutable. Parce qu'elle pouvait peut-être demander du secours à Dieu, il l'aurait épargné. Mais non, Élie va s'enfuir. Et après cette étape, c'était vraiment les derniers grands événements d'Élie. Il fut au milieu d'Israël et ensuite, on verra peut-être à une autre occasion que Élie va être enlevé. Il y a certaines choses qui vont se passer entre l'enlèvement et la confrontation, entre la confrontation du mont Carmel et l'enlèvement, mais il y avait plus d'événements majeurs, du moins devant le peuple. Et après, Élie va être enlevé. Gardez bien cela à cœur. Qu'Élie va être enlevé. Donc il y aura un enlèvement pour lui juste après cette confrontation. Bien. Malgré tout ce qu'Élie a fait, la maison d'Akab et le peuple ne se sont pas repentis. Ils ont vu des prodiges lors de la confrontation de Carmel, mais le peuple ne s'est pas tourné vers Dieu. Et c'est pourquoi Élie même pouvait se plaindre qu'il est resté seul. Et il pensait que, en faisant ce qu'il avait fait, le peuple se retournerait ou se tournerait vers Dieu. Pour lui, c'était vraiment décourageant qu'après avoir déployé son zèle pour l'Éternel, que le résultat était celui-là. Mais l'Éternel l'a consolé. Peut-être pas directement. Dans la suite, il est parlé de Dieu s'était réservé 7 000 personnes qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. Il se croyait seul, mais en réalité, il n'était pas seul. Donc, je disais que c'était les grands faits majeurs d'Élie avant son enlèvement. Et nous avons vu le temps ou la condition qui prévalait au temps d'Élie. Et lorsqu'on regarde bien, c'est le même temps qui prévaut dans notre temps aujourd'hui. Nous reviendrons sur cet aspect. J'avais préparé tout à fait autre chose. Je voulais parler sur ça, mais j'ai été conduit à parler d'autres choses du temps des rafraîchissements. On reviendra peut-être sur ça pour voir quelles sont les comparaisons qu'on peut voir entre les temps d'Élie et les temps dans lesquels nous vivons, tout en gardant à l'esprit qu'ils servaient des Baal et les Astarté. Donc, dans ces temps ici, nous sommes au temps des Laodicées. Laodicée, c'est la dernière des sept églises décrites dans Apocalypse. Et nous savons que nous sommes au septième âge de l'église avant l'enlèvement. Et c'est un temps d'apostasie, car le Seigneur est dehors. On va lire dans Apocalypse 3, à partir du 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu te dis... Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque nous lisons ceci, nous comprenons que c'est un temps de tiédeur, ni chaud, ni froid. L'Église n'arrive plus à se positionner comme on a vu au temps d'Élie. Le peuple ne pouvait pas répondre, est-ce que c'est l'Éternel qui était Dieu ou c'est Baal qui était Dieu? Et c'est exactement les mêmes conditions qu'on retrouve. Et là, Élie pouvait poser la question, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après Baal. Et c'est exactement la même question qui peut nous être posée aujourd'hui. Qui est votre Dieu? Très, très important. Il ne faut pas être neutre. Il faut affirmer votre position. Et tenez-vous-en. Nous avons vu que le peuple ne lui répondit rien. Donc, c'était un temps aussi d'aveuglement spirituel. Nous voyons, nous avons lu dans Apocalypse, elle se croit riche alors qu'elle est pauvre et misérable. Elle se croit habillée alors qu'elle est nue. Comme au temps d'Élie, Dieu est mis dehors. Et nous venons de lire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'il est dehors. Il est dehors. C'est la condition de Laodicée, c'est la condition du temps de la fin. Et comme au temps d'Élie, c'était un temps d'apostasie, aujourd'hui c'est exactement un temps d'apostasie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous envoie l'Élie de notre temps. Et il nous a envoyé donc un prophète avec l'esprit d'Élie et avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Ça veut dire nous préparer à l'enlèvement. Dans le message Monsieur Hessler, paragraphe 65, ici c'est la brochure de Krefeld qui a été éditée par Krefeld. Quand cet ange descendit, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans et qui étaient tout près quand cela descendit. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière devant les anges? Veuillez lever la main. Oui, en voilà. Je vois Madame Wilson qui lève la main. Elle était là. Ma femme aussi y était. Je ne connais pas tous ceux qui se tenaient au bord de la rivière devant de nombreuses personnes quand j'étais en train de baptiser à 2h de l'après-midi. Tout à coup, de ce ciel d'airain, il n'avait pas plu depuis une semaine. Du temps d'Élie, il était question, il n'avait pas plu depuis trois ans. Il n'avait pas plu depuis une semaine et le ciel était d'airain. Il descendit un fort grondement et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue du Christ, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Remarquez, il est dit, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Et nous sommes au temps de la fin, et nous le savons. Lorsque nous lisons la Bible, il nous est dit que Jean-Baptiste était l'Élie. Il était venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Dans Matthieu 17, 10, 13, il est dit, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, du temps du Seigneur, il y a Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie. Et j'ai dit qu'au travers de la Bible, on peut voir la présence d'Élie à différentes, dans différentes dispensations. Et donc, en ces temps ici aussi, Dieu a envoyé un prophète avec l'esprit d'Élie. Et s'il a envoyé en ces temps ici, c'est parce que c'est un temps d'apostasie. Et ça veut aussi dire que l'enlèvement n'est pas très, très loin. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il est venu ramener le cœur vers le Père, le cœur des enfants vers le Père, ça veut dire vers la foi apostolique. Il nous faut revenir, c'est ça, rétablir l'autel, revenir à la parole originelle. Ceci est très important. Et nous savons que Dieu a accompli au travers de cet Élie du temps de la fin, des miracles et des prodiges et des guérisons. Il y en a encore qui sont vivants aujourd'hui, qui ont vu beaucoup de ces choses. Ce n'est point pour glorifier un homme, mais pour nous préparer, car le temps est avancé. La Bible déclare dans 2 Chroniques 20:20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » L'importance des prophètes. Si vous voulez réussir, le secret est caché là. Et nous savons que le frère Branham est le prophète de ces temps-ci et que son message est authentique. Alors, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire pour réussir. Le message ne pointe que vers Christ et pas un autre. C'est de Christ dont nous avons besoin et pas d'un homme, car c'est lui qui est notre sauveur. Dans certains milieux, on parle de frère Branham qu'il est Dieu. Non. Parce que la tombe de frère Branham, vous pouvez aller, hein? Il y en a qui vont en pèlerinage. Il ne sera jamais notre Dieu. Jamais. C'est Christ qui est notre Dieu, notre Sauveur. Et le message qu'il a apporté n'est pas un message nouveau. Non. Parce qu'il s'agit de ramener. Ramener, ça veut dire aller vers la position originelle. Donc, ce n'est pas un message nouveau. Même si Dieu continue à faire des choses, mais le message n'est pas nouveau. Parce que de tout temps, c'était toujours d'être ramené à la parole véritable. Ça a toujours été ça. Même si on est dans des dispensations différentes, mais le message reste le même. Et comme nous avons vu, Élie, au travers de la Bible, il a un rôle capital, c'est de ramener, si on lit tout dans Malachie, c'est de ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Jean-Baptiste a accompli une part de cela, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je voulais juste montrer quelque chose. Nous savons amener le cœur des pères vers les enfants. Si nous prenons le cas le plus simple, donc on a des pères et on a des enfants. Ça veut dire ramener le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Ça montre quoi ça? On reviendra là-dessus lorsqu'on parlera du père. Donc si vous avez des pères, Et vous avez les enfants. Donc le père, ramenez le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. En fait, l'idée qui est là, c'est les pères et les enfants doivent être dans l'unité. Ils doivent être un. Ça veut dire que vous et le message, vous devez faire un. Vous et la Bible, vous devez faire un. Parce que la Bible, c'est la parole originelle. Et nous reviendrons là-dessus pour montrer qu'il y a diverses façons de voir, ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de désordres. Parce que quelque part, les pères et les enfants, dans les foyers, c'est compliqué. Mais nous reviendrons là-dessus pour montrer que c'est un temps où les pères ont perdu leur rôle et le monde est dans un chaos total. Bien. Donc, le message n'est pas nouveau. Et quel est ce message? Nous allons dans Actes 3, 19-21. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Nous voyons ici les temps de rafraîchissement. Je crois que le frère François en a parlé il y a quelques mois, les temps de rafraîchissement. Et si on parle de rafraîchissement, ça veut dire qu'il y a un temps de sécheresse. On veut amener, en tout cas, il faut qu'il y ait la pluie pour venir rafraîchir la terre. Ça veut dire que la terre est sèche. On a besoin donc de pluie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme au temps d'Élie, avec la sécheresse qui a frappé, et il a fallu que le temps de rafraîchissement vienne. Et le temps de rafraîchissement ne peuvent réellement venir que si nous nous repentons et nous nous convertissons. C'est le seul secret. Le message est venu pour rétablir toutes choses afin que Dieu nous envoie celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons. Il vient pour nous prendre et être avec lui. Autrefois, Dieu s'adressait à un peuple, le peuple d'Israël. Il s'adressait à Israël en tant que peuple. Aujourd'hui, Dieu parle individuellement à chacun. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. La venue du Seigneur est plus proche qu'on le pense. Que Dieu mette nos cœurs en alerte. Et surtout, faisons attention, car Israël, malgré ce que Élie avait fait, ils ne se sont pas repentis. Ils ont eu peut-être des émotions lors de la confrontation en disant que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais ils se sont arrêtés là. Ils ne sont pas partis plus loin. Une fois rentrés chez eux, ils ont continué dans leur voie. Ils ne se sont pas repentis ni convertis. Et comme nous avons vu, Dieu s'était réservé encore 7000 personnes, des gens qui ne se sont pas souillés avec les Baal et les Astarté, des gens qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisée. J'espère que chacun de nous cherche réellement la face du Seigneur et il fait tout pour être compté parmi ceux qui ne fléchiront pas les genoux devant Baal et dont la bouche ne les baisera point. Que Dieu vous bénisse. Le message est assez court, mais c'est là que je m'arrête. Que Dieu vous bénisse encore. On va prier. Seigneur Dieu de grâce, combien nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Car nous réalisons, Père éternel, ô Dieu, et nous vivons des temps compliqués, Père éternel, ô Dieu. Beaucoup de choses ont été déplacées, Père éternel, ô Dieu, et le monde est dans un chaos indescriptible. Et c'est pourquoi, ô Dieu, nous venons devant toi afin que tu te souviennes de nous. Car c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre secours, c'est toi qui es notre délivrance, Père. Nous réalisons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire, Père éternel, ô Dieu. Aussi, mets cette urgence en chacun de nous, Père éternel, et reconnaître, Père éternel, que si tu nous as envoyé un prophète, ce n'est point, Père éternel, ô Dieu, pour que nous puissions dire que nous avons eu un prophète en ce temps de la fin, mais c'est pour préparer nos cœurs, Père éternel. Et chacun sait exactement où il se tient avec Dieu. Que tu fasses grâce, Père éternel, ô Dieu, à ceux-là qui sont encore, Père éternel, ô Dieu, attachés à toutes sortes de dieux, Père éternel. Comme le frère le disait ici, les gens adorent beaucoup de choses aujourd'hui, Père. Mais nous avons un seul Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, ô Dieu, nous regardons vers toi, Père éternel, ô Dieu. Aide-nous à plonger nos regards dans la Bible et dans les messages de l'heure, Père éternel. Car c'est là que tu nous révèles, Père éternel, ce qu'il nous convient de faire, Père éternel, ô Dieu, pour mener une vie paisible, Père éternel, et victorieuse. Ainsi, accorde-nous tes faveurs, Père éternel, ô Dieu. Parle et touche chaque cœur, Père éternel, ô Dieu. Et c'est cela pour que l'assemblée soit une assemblée remplie de Dieu, Père éternel. Une assemblée où l'Esprit de Dieu se meut, Père éternel, ô Dieu. Une assemblée où l'Esprit de Dieu, Père éternel, intervient pour secourir, Père éternel, ô Dieu. Ainsi, sois-nous favorables, Père éternel, ô Dieu. Merci, Père éternel, de nous montrer au travers des Écritures, Père éternel, ô Dieu. Combien, Père éternel, ô Dieu, ce que nous vivons n'est pas quelque chose de nouveau, Père éternel, ô Dieu. Au travers des temps passés, Père éternel, ô Dieu, nous voyons le peuple t'abandonner souvent, Père éternel, mais c'est ta grâce qui venait constamment, Père éternel, ô Dieu, pour supplier le peuple à revenir, Père éternel. Et ceux qui se sont éloignés de toi, Père éternel, ô Dieu, puissent-ils, Père éternel, saisir cette grâce que toi tu leur manifestes, Père éternel, afin de revenir totalement à toi, Père éternel, ô Dieu. Maintenant, Père, raccompagne chacun de nous, Père éternel, et bénis, ô Dieu, chaque cœur ici présent. Bénis ceux-là qui n'ont pas été de notre Père éternel. Que la grâce de Dieu assiste les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.